Monsieur Mermet, mais qui êtes-vous? Et pour qui vous prenez-vous? Et d'où sortez-vous pour continuer à insulter ainsi monsieur le président de la République? Mais c'est une honte, c'est à vomir vos émissions. Avant les élections, vous n'avez cessé de recevoir des messages de haine contre monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy est le président de la République et vous ne cessez de dire des mensonges.
Monsieur Mermet, quand est-ce que vous vous déciderez à inviter un jour quelqu'un qui soit favorable au nouveau gouvernement? Parce que tous les jours, on entend les mêmes rengaines. Vous ne connaissez personne qui était d'accord avec monsieur Sarkozy, pourtant c'est bien lui qui a été élu. Revoyez un peu votre entourage et vos relations, monsieur Mermet. Monsieur Mermet, j'ai oublié de vous réitérer ma question. Ça fait plusieurs fois que je vous la pose. Où habitez-vous? Dans quel environnement vivez-vous? Combien gagnez-vous et qui paye vos voyages à travers le monde? Là, vous êtes un peu moins mariole pour y répondre. Alors on attend une réponse claire et nette, et non pas des critiques envers tout le monde. Et je ne comprends d'ailleurs pas quand vous laissez encore prendre la parole sur une radio publique que tout le monde finance. Moi, je serai à la direction de cette radio il y a longtemps que je vous aurais foutu dehors, et sans indemnité. Voilà, au revoir.
Allô, Daniel, salut. C'est Patrick. Je voulais te dire que j'étais de gauche. J'avais voté Sego au premier tour pour pas me retrouver à choisir entre Le Pen et Sarko au deuxième tour. Mais quand Sarko dit la France ou tu l'aimes ou tu la quittes, ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça très bien. Imagine que tu invites quelqu'un chez toi. Il fume, il jette les cendres par terre, il met les pieds sur les coussins, il dit ta maison elle est pourrie, elle est dégueulasse, ton décor c'est pourri, ce que tu m'as fait à bouffer c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis écoute mon petit, tu reviens plus chez moi, tu prends tu rentres et tu dégages quoi. Eh ben pourquoi est-ce qu'on applique à soi, pour chez soi, on l'appliquerait pas au niveau de la France? Ceux qui n'aiment pas la France, ils y restent pas et pourtant je suis de gauche. Je sais pas, ça peut-être en choquer certains, mais moi ça me choque pas. Voilà. Parce que moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, je veux pas que c'est pas pour qu'il me pourrisse, quoi. Je sais pas. Voilà, réfléchissez là-dessus. Merci, bonne continuation, au revoir.
Continuez, Mesmer, à monter les immigrés, une certaine partie d'immigrés, à les monter contre les Français. Moi, je pense que s'ils sont pas contents, ils s'en vont, c'est mieux. Hein, la France, ils n'aiment pas, ils se cassent, on n'est pas allé les chercher. Continuez aussi à monter les gens qui ont rien foutu de leur vie, que des conneries, et ils en sont là, parce que c'est par leurs conneries très souvent, ils ont trop d'enfants, ils travaillent pas, ils se saoulent la gueule, et c'est devenu des gros cas sociaux et des emmerdeurs. Continuez à les monter contre les gens que vous appelez des gens riches, parce qu'ils ont travaillé, eux, toute leur vie pour payer une maison pendant 20 ans, ou une voiture pendant 5 ans, que dès qu'ils la sortent, on leur raye, on leur casse. C'est sympa, hein, continuez, mais c'est vraiment de la merde, cette émission.
Daniel Mermet dit qu'il ne resterait pas grand-chose de la France sans l'immigration, sous prétexte qu'un tiers des Français sont d'origine immigrée. Et qu'est-ce que c'est que ce discours? Qu'est-ce qui resterait de la France? Ben, on serait moins nombreux, c'est tout. On serait 15 ou 20 millions de moins. Et alors, est-ce que ça ferait de nous pour autant un peuple de qualité moindre parce qu'on est 15 millions ou 20 millions de moins? Qu'est-ce que c'est que ce discours? Lorsque l'intervenant dit que la France est l'un des pays au monde qui doit le plus à l'immigration, c'est pareil en matière numérique, je veux bien, mais alors qu'est-ce que ça change? Après la guerre de 14, sans l'immigration, la France se serait reconstruite un petit peu moins vite, et alors? Et après, à la fin de la guerre de 40, c'est pareil, la France se serait reconstruite un petit peu moins vite, et alors? Est-ce que ça ferait pour autant de la France et du peuple français aujourd'hui un peuple et un pays de qualité inférieure à ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ce discours? En plus, il fait remonter l'immigration à 1870, c'est extrêmement récent dans l'histoire de la France, qui a 1000 ans. C'est très récent, autrement dit, l'immigration en France, c'est ni une tradition, ni une nécessité. Et par ailleurs, il faut jamais oublier que si la mission de l'intervenant, c'est de changer le regard sur l'immigration, en bien, évidemment, il peut faire ça autant qu'il veut, et de toute façon, ça ne change rien à l'affaire, parce que toute immigration massive, d'où qu'elle vienne, à quelques périodes de l'histoire française qu'elle s'est produite, et il est premier à le savoir, il en parle, italien, etc., ça s'est toujours très mal passé. ça a toujours été une erreur et à terme un échec parce qu'il y a toujours eu un rejet. Ce qui est logique parce que toute immigration massive imposée à un peuple est une atteinte à sa dignité puisqu'une atteinte à sa souveraineté. C'est aussi simple que ça. Ça a toujours été le cas. Ça le sera toujours. Et jamais oublier aussi que si l'immigration est soi-disant une bonne chose, une chance pour la France, n'oublions jamais aussi que c'est un risque. On en a mesuré l'importance récemment puisque l'immigration, certaines immigrations, a failli nous faire revenir sur précisément l'un des points les plus importants de notre identité, nous y voilà, savoir la laïcité. L'immigration a failli nous faire revenir là-dessus, ça a été moins une. L'immigration est une chance pour la France, c'est aussi un risque, et pas qu'un peu. Salut, c'était Franck Dumont.
Pas mal, hein? Décomplexé, voilà, décomplexé. De nouveaux auditeurs dans le répondeur de la base où j'y suis depuis quelques jours. Depuis l'élection du nouveau président de la République, on a des nouveaux auditeurs, nous aussi, voilà, décomplexés, qui vont carrément, vous avez entendu, un petit échantillonnage. C'est pas les seuls, bien évidemment, mais enfin, voilà, on apprend que l'immigration n'est ni une tradition, ni une nécessité. C'est pas tout à fait ce que disent nos chercheurs, dont Gérard Noiriel, qu'on va retrouver aujourd'hui. C'est pas non plus ce qui va se montrer et se démontrer dans la Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui va prochainement ouvrir à la Porte Dorée dans l'ancien musée des colonies que cet auditeur doit regretter amèrement. C'est pas ça. La tradition et la nécessité semblent être précisément ce qui a le plus marqué et qui continue de marquer cette migration, tant il est vrai que nous migrons, nous avons migré, nous sommes tous des migrants, et ces quelques messages nous donnent une idée du boulot qui reste à faire, un boulot d'apprendre, de découvrir, de comprendre, d'expliquer inlassablement. Aujourd'hui, donc, à nouveau avec Gérard Noiriel. Je rappelle que Gérard Noiriel est historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et il est membre du conseil scientifique de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration, où récemment un nombre de chercheurs, sur 12 chercheurs qui constituent le comité scientifique de ce projet, 8 sur 12 ont démissionné suite à l'instauration du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est ce « et » qui leur déplaît, tant ces deux notions associées leur semblent faire écho à des rapprochements douteux dans le passé qui ont, selon eux, ce rapprochement ne s'est fait que sous Vichy, et ils veulent par là dire leur inquiétude. On sait aussi comment ce projet de ministère a été, de l'aveu même du candidat Sarkozy, destiné à plaire, à séduire l'électorat du Front National. Enfin, on va continuer de débattre aujourd'hui à nouveau de cette question, mais qui est une question, évidemment, on l'a compris, très importante. Changer le regard sur l'immigration, c'est la mission de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui, je le rappelle, est un projet tout à fait consensuel, placé sous la direction de Jacques Toubon. Et c'est aussi un peu notre modeste et géniale contribution dans ce domaine. Depuis longtemps, la base du JSP essaye d'apporter ses petits grains de sable et ses petites contributions à faire évoluer ce regard, ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais auparavant, vous allez voir qu'il n'y a pas que des auditeurs décomplexés, il y a aussi d'autres sons de cloche sur le répondeur de la base du JSP au 01 56 40 37 37.
Notre premier ministre me dit: les socialistes n'aiment pas la France. Son patron me dit: la France, on l'aime ou on la quitte. Je suis socialiste. Dois-je obéir à cet ordre? Merci. Au revoir.
Oui, bonjour. Alors, suite à votre émission là, sur l'identité nationale, j'appelais, on entend les discours de Nicolas Sarkozy qui dénonce l'abattage des moutons. Et donc, ça m'a rappelé à une époque, il y avait tout un débat sur l'hygiène, machin, bidule, truc. Et alors, il y a une tradition qui est vachement plus franco-française, mais qui revient quand même un peu au même. Nous, enfin, dans ma région, on appelle ça la tue cochon. Et comme son nom l'indique, on tue le cochon. Donc, eh bien, on fait exactement comme les musulmans, sauf que c'est un porc. Voilà, les familles, les amis se réunissent, ceux qui ont des bêtes les amènent, et on les égorge joyeusement, ça fait du sang partout, et ensuite, on passe le reste de la journée, les mains dans la barbaque, à faire des saucisses. Voilà, et je trouve pas ça tellement mieux ou pire, enfin, c'est exactement la même chose que le fait de dégorger des moutons, sauf que comme c'est une fête rurale, effectivement, bon, bah, ça se fait sur un bout de terrain, quoi, mais bon, voilà, niveau cruauté, hygiène et compagnie, c'est exactement pareil, et alors, par contre, ça, c'est des bonnes vieilles traditions franco-françaises, comme on les aime. Voilà, ciao.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission sur le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. J'ai pas cessé au fond de moi-même de rigoler. Alors je vais te dire pourquoi à chaud. D'abord je voudrais rappeler à ceux qui l'ont oublié ou qui l'ont occulté qu'il y a eu deux mystifications opérées par des hommes historiques de renom, en l'occurrence De Gaulle et Mitterrand. De Gaulle, en premier lieu, après la libération, et pour des raisons qu'on peut comprendre, a fait croire au peuple français, ou a voulu faire croire au peuple français qu'ils étaient des résistants, alors que la plupart d'entre eux ont versé dans la collaboration. C'est trop facile maintenant de mettre tout sur le dos de Pétain, et comme disait ma mère, que Dieu ait son âme, le grand tort d'un mort, c'est qu'il ne peut plus parler. Mais enfin, l'histoire est en train de revenir sur la chose. Deuxième homme politique, c'est Mitterrand. Et Mitterrand qui, au passage, rappelons-le aussi, a été élu après la libération par ce qui restait comme groupe de pétainistes. On l'oublie, c'est devenu un président socialiste. Et la mystification de Mitterrand, ça a été de vouloir, de faire croire aux Français qu'ils étaient un peuple de gauche, alors qu'ils sont majoritairement de sensibilité de droite. Notre ami Sarkozy a bien retenu la leçon. Il sait que la France, majoritairement au sens statistique, est de droite. Il a assumé complètement cette sensibilité de droite et il a été élu sur les termes de Karcher, de Rakaï et du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Il n'a pas eu peur de prendre ça à son compte et il a été élu pour ça. Alors, j'ai entendu même des gars progressistes remercier Sarkozy d'avoir quand même, malgré tout, son catastrophique programme, d'avoir diminué l'électorat. Mais c'est de la plaisanterie, diminué l'électorat de l'extrême droite, enfin d'avoir réduit le score de Le Pen. Mais il n'a rien réduit, il a simplement phagocyté une bonne partie de l'électorat de Le Pen. Autrement dit, il a droitisé la droite, et ça je trouve que c'est courageux. Alors bon, maintenant qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires sur le scandale de ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale, la France n'est jamais sortie de ses guerres coloniales dans son imaginaire, elle est et restera raciste. Il faut accepter la chose comme elle est. Un arabe, ça restera toujours un bougnoul. Un noir, ça restera toujours un nègre. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, ce n'est pas la nomination d'un garde des Sceaux issu de l'immigration qui va changer quelque chose. Parce que je trouve d'ailleurs cette nomination non seulement comme une opération politicienne, démagogique, mais je la trouve extrêmement raciste. On ne nomme pas encore une fois quelqu'un simplement parce qu'il est issu de l'immigration, issu d'une famille de 11 personnes dont le père et la mère sont analphabètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, rendez-vous compte, une arabe qui est devenue juge. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve ça absolument raciste. Raciste, enfin, c'est pas croyable. Mais bon, Le gouvernement précédent avait fait aussi quelque chose, mais avec une envergure un peu moindre, en mettant ce pauvre délégué à l'égalité des chances, qui n'a pas eu d'ailleurs la chance de retrouver un portefeuille. Mais voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Enfin, moi, je suis un arabe qui assume mon arabité. Je vous appelle comme d'habitude d'Aix-en-Provence, je suis Hamid, je suis ancien professeur de sociologie en retraite, paisiblement, et voilà. Il faudra un jour ou l'autre faire la vérité sur ce qui s'est passé pendant l'occupation, et faire la vérité sur ce qui s'est passé pendant les guerres coloniales, et en particulier la guerre d'Algérie, et quand on aura vidé cet abcès-là, peut-être qu'un jour, la France deviendra ce qu'elle est dans le mythe, dans l'imaginaire des gens, ce pays des droits de l'homme et du citoyen. Mais pour le moment, c'est une farce. Avouons-le. Allez, porte-toi bien. Et à bientôt.
Avec ma gueule. Je veux que l'on reconnaisse au gouvernement et au Parlement le droit de fixer catégorie par catégorie le nombre de personnes admises à s'installer sur notre territoire.
Avec ma gueule de métier.
Je continuerai de parler de l'identité nationale parce que je crois que l'identité nationale pour un peuple, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce que je crois que la France traverse une crise d'identité, que cette crise est grave, à nous contester le droit de parler de notre identité. Nous créons les conditions d'une crise identitaire.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Gérard Noiriel. Les révoltés du E.
Flight number 2, arriving from New York.
Parmi les projets du nouveau pouvoir, outre le service minimum, il y a le durcissement des règles en matière d'immigration. Ce sera le travail de Brice Hortefeux, le ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Et l'intitulé de son poste continue à susciter la polémique. Brice Hortefeux reçoit ce matin 8 universitaires qui ont claqué la porte de la cité nationale de l'histoire de l'immigration. Patrick Veil, qui avait inspiré Lionel Jospin sur ce sujet, est l'un de ses démissionnaires. Il explique pourquoi à Étienne
Monard. La mission de la cité, elle vise à combattre les préjugés et les stéréotypes qui fonctionnent très bien en temps de crise contre les immigrés, quand on les accuse parfois de mettre en danger l'identité nationale à certaines périodes de notre histoire, dans les années 30, même plus récemment, dans les années 80, avec l'horloge, le Front National. Et c'est ce qui nous a surpris et choqués. C'est que l'actuel président de la République, qui ne se situe pas historiquement dans les mêmes courants que l'extrême droite, l'Action française ou le Front national, emprunte à ce courant politique pour créer un ministère, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de la République. Son titre est un message codé en direction d'une tradition politique qui est celle de la droite nationaliste xénophobe, et c'est ce message-là dont on voudrait qu'il n'existe plus comme symbole de ce gouvernement républicain que M. Sarkozy devra constituer à nouveau après les élections législatives.
Voilà, expliqué en quelques mots par Patrick Veil, ce qui fait la substance de notre émission à nouveau aujourd'hui, cette contestation par une série de chercheurs, d'historiens qui sont impliqués dans la création et le conseil scientifique de cette cité nationale de l'histoire de l'immigration qui va ouvrir, donc qui ont démissionné suite à l'instauration, la création de ce ministère et de l'intitulé de ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale et du co-développement. C'est ce « et » qui fait obstacle et qui fait à leurs yeux problème, car il renvoie, Patrick Veil vient de le dire, à toute une idéologie, la xénophobie. On a entendu ces auditeurs en début d'émission qui militent pour contre l'immigration, pour une France pure blanche, et c'est pas sans écho avec le rêve de Ariens de certains à certaines époques. On n'en a pas fini avec cette histoire. Et Hamid a raison de penser que il faut d'abord crever l'abcès. On peut pas dire que certains ne s'y emploient point. En tous les cas, nous, ici à la Basilisuie, on s'est depuis longtemps fait l'écho et on a fait entendre ceux qui cherchent dans ce domaine, que ce soit ceux le colonisé, le colonialiste aussi, on l'a entendu, l'anticolonialiste, etc. Parce que quand on raconte la colonisation, par exemple, mais il faut savoir quel angle on va choisir. Marc Ferraud explique ça. Est-ce que c'est la parole du colonisé? Est-ce que c'est la parole de l'anticolonialiste, qui est bien souvent beaucoup plus radical que celle du colonisé lui-même, car souvent l'anticolonialiste poursuit d'autres projets, d'autres horizons que ceux du colonisé, et puis il y a évidemment celle du colonialiste, etc. C'est-à-dire qu'un récit historique de la colonisation doit choisir sous quel angle il va se développer, se déployer, et c'est bien difficile de faire exister ces différents points de vue. Là, on n'est pas dans la colonisation, on est dans l'immigration, on confond trop souvent ces deux notions. J'espère qu'on aura d'ici à la fin de cette heure l'occasion d'entendre une chanson de Charles Aznavour qui est très rare parce qu'elle est très longue, elle est très très belle, où Charles Aznavour raconte sa vie, son histoire et notamment ses origines arméniennes. Et ben c'est l'histoire d'une immigration qui aurait choisi les parents de Charles Aznavour. Sur quels critères on aurait choisi ces gens-là, et voilà, et Aznavour est un de nos meilleurs et nos plus grands poètes populaires aujourd'hui. C'est un exemple, évidemment, parmi des millions d'autres, parmi des millions d'autres. Donc voilà, aujourd'hui on retrouve pour la deuxième volet Gérard Noiriel. Je rappelle qu'il est l'auteur d'un livre que je vous recommande qui s'intitule Immigration, antisémitisme et racisme en France au 19e et au 20e siècle, discours public, humiliation privée. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, car j'évoquais Marc Ferraud. Marc Ferraud nous parlait un jour de la force du ressentiment dans l'histoire. Comment le ressentiment accumulé va pouvoir déclencher, orienter le cours de l'histoire. Ce qui vaut pour le cours de l'histoire vaut aussi pour le cours de l'histoire privée, de l'histoire intime. Et je pense que les échos qu'on a eus en début d'heure relèvent un peu aussi de ces ressentiments longuement accumulés et qui, à la faveur de cette récente élection, se manifestent de cette façon. C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h sur Inter, les révoltés du et.
Un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rangez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. et tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre, vous en aurez besoin. Olé. Big bang play. Oh, the big bang play. Oh, the big bang play. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter. Et je préfère rester pour me marrer.
Gérard Noiriel, vous êtes historien, vous êtes un intellectuel, mais c'est pas pour autant que tous les intellectuels, et notamment les historiens, sont sur la même ligne que vous. Et j'ai sous les yeux une phrase de Pierre Nora, qui est académicien, qui est un historien prestigieux, qui dit ceci. L'identité nationale est en crise en raison de l'arrivée d'une nouvelle immigration, la plus difficile à soumettre aux normes des lois et des coutumes françaises. Voilà, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ben, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Pierre Nora, j'ai eu l'occasion de collaborer d'ailleurs à certains de ses ouvrages sur la mémoire. Ceci dit, je redis ce que j'avais déjà dit en 1988 dans mon livre Le Creuset français, qui est, dont le premier chapitre s'appelait Non-lieu de mémoire, où je reprochais à Pierre Nora de ne pas avoir vu du tout l'immigration et de tenir des propos de ce type. Donc je les réitère aujourd'hui, et aujourd'hui c'est encore plus grave qu'il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui nous avons une quantité de recherches historiques qui prouve l'inanité de ce genre de phrase. Vous comprenez? Donc ce n'est même plus là un point de vue politique, c'est un point de vue d'ignorant. C'est-à-dire, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Parce que, à l'unanimité, les gens du comité de l'immigration, donc les meilleurs spécialistes qui existent en France sur le sujet, désapprouvent ce genre de propos. Parce que, dites-moi comment on a fait dans le passé. Et vous croyez qu'on a soumis les gens? Qu'est-ce que ça veut dire, les soumettre à une identité nationale? Ça ne veut rien dire. Comment les gens se sont intégrés dans la vie quotidienne? S'ils avaient du travail, s'ils se mariaient, si vous avez des tas de modalités qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'étatique. Donc faire croire qu'un pouvoir politique serait en mesure d'inculquer une identité nationale, je trouve ça complètement scandaleux, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan civique.
Parce que quand on dit une nouvelle immigration, on sous-entend quoi? On sous-entend une immigration musulmane venue du Maghreb, etc. C'est ça qui est sous-entendu. C'est pas dit, mais sous-entendu. Dans le langage du rejet, de la xénophobie, même mondaine, même savante, il y a le sous-entendu qui est très fort.
Voilà, ce qui rend difficile l'analyse, parce que comme effectivement on charrie ici des connotations, c'est-à-dire tout le monde saura bien de quoi il est question, mais ce n'est jamais dit explicitement, si vous mettez sur les points sur les i, vous êtes accusé de faire des procès d'intention. Alors comment maintenir dans des conditions comme celle-là un débat intellectuel par d'échanges d'arguments? Vous comprenez? On est toujours, et ça je crois que c'est une des innovations, une nouveauté du discours actuel, où avant, vous savez, même en 37, le Parti communiste, 1937, le Parti communiste avait fait un meeting La France aux Français. À l'époque, je dirais, il y avait une politique ou un discours politique qui était explicite. Aujourd'hui, on contournera tous les éléments qui seront considérés comme ne devant pas être explicités, et du coup, on n'a plus d'espace pour aborder clairement le débat politique, mais je suis tout à fait convaincu, comme vous, que les groupes qui sont visés par ce genre de formule, eh bien, ce sont les musulmans, les migrations venues d'Afrique du Nord.
France Inter.
Après avoir invoqué les mannes de Blum et Jaurès en début de campagne, à moins de 6 semaines du premier tour, Nicolas Sarkozy donne un coup de barre à droite.
Inter, 14 mars 2007.
Son discours hier à Besançon devant 8 à 10 000 personnes était dans la droite ligne de sa proposition d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Les thèmes de l'identité et de la nation ont été les fils rouges de sa journée de campagne. C'était en Haute-Saône et dans le Doubs, Jean-François Aquili.
Il n'a parlé que de ça ou presque, la nation. Nicolas Sarkozy, en visite à Vesoul, s'en est pris à Ségolène Royal en dénonçant une petite intelligentsia qui l'empêcherait de parler d'identité nationale. Son nouveau thème de campagne. Puis le candidat a enfoncé le clou en meeting à Besançon. Il faut respecter l'identité de ceux qui viennent, mais ils doivent respecter l'identité du pays qui les accueille, a-t-il martelé, acclamé par les militants UMP. Parler de l'identité nationale ne me fait pas peur, a-t-il ajouté, revendiquant sa fierté d'être français. Je veux parler de la nation française parce que je n'accepte pas l'image qu'en donne Jean-Marie Le Pen, a-t-il ajouté. Face à l'émergence de François Bayrou, Nicolas Sarkozy pense au premier tour et revient à ses fondamentaux en droitisant, en radicalisant son discours. Besançon, Jean-François Aquili, France Inter.
On continue avec Gérard Noiriel. Vous êtes, vous relevez de la petite intelligentsia, mon cher Gérard Noiriel. C'est au moins ce qu'a dit le candidat Sarkozy, le 13 mars 2007 à Vesoul. La France, a-t-il dit, la France est le seul pays où une petite intelligentsia considère que l'on n'a pas le droit de parler de l'identité nationale. Vous êtes senti visé là quand même. Peut-être pas personnellement, mais enfin votre petit groupe de chercheurs et d'historiens a dû se sentir un petit peu visé.
Oui, d'autant plus que quelques jours avant, j'avais publié un texte dans un journal où je déplorais cette association entre immigration et identité nationale. Alors, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de la définition du nationalisme, bien là, on a une bonne preuve, parce qu'à chaque époque de l'histoire, le nationalisme, c'est le rejet de l'étranger, et après, c'est aussi la dénonciation de ceux qui vont prendre la défense des victimes, vous voyez, du discours du nationalisme. Donc ça, on le retrouve chez Barrès. Vous savez que le mot intellectuel, au départ, c'était une insulte. Hein, il a été utilisé par Barrès comme une insulte. Après, il a été retourné par les intellectuels, disant « Oui, ben nous assumons, nous sommes des intellectuels. » Mais au départ, c'était péjoratif. Alors aujourd'hui, on ne peut plus utiliser le mot intellectuel comme une insulte, puisque nous avons de grands intellectuels qui parlent à la télévision, comme chacun sait.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, on va dire intelligentsia, vous voyez. Donc voilà, mais c'est la même logique, si vous voulez, c'est de nous rejeter hors du peuple. Moi, j'invite Nicolas Sarkozy à visiter le quartier où j'habite, en banlieue. Il verra que je suis, je vis au milieu du peuple, à la fois par mes origines sociales, par mes positions, et je suis prêt aussi à montrer mon bulletin de salaire. Il verra que je n'ai pas besoin de m'exiler en Suisse pour payer moins d'impôts. Enfin, je veux dire, voyez comment on est amené par rapport à cette stigmatisation, à des choses qui sont, moi, je trouve, c'est le degré zéro de la vie politique. Parce que on n'est pas là dans une argumentation, on est là dans une mise en question. Qui vous oblige, si vous voulez, à faire vos preuves. Parce qu'il faut voir l'impact que ça a. Moi, je vois dans un centre de blog, puisqu'aujourd'hui, j'allais dire presque malheureusement, chacun a son blog, comment notre attitude, si vous voulez, peut être rejetée par des gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces prétentieux qui veulent, voyez ?» Donc, chaque fois que vous avez une forme d'intervention, que vous essayez de la justifier par des arguments, ceux que vous critiquez bien, vont échapper à l'argumentation pour se situer sur un autre plan, avec des termes péjoratifs qui, là encore, intelligentsia, vous voyez à quoi ça renvoie.
Ça renvoie un peu à establishment, c'est un peu les mêmes genres de mots, de même sonorité.
Voilà, ça veut dire gauche caviar, ça veut dire, vous voyez, toute une série d'éléments qui vont avec et qui payent aussi cette espèce de populisme-là qui est très fort aujourd'hui. Ou par exemple, dans notre action, on a vu le ministre ou d'autres hommes politiques disant « mais vous ne respectez pas le suffrage universel ».
Voilà.
Ah, c'est quand même ahurissant quand vous entendez ça. Si vous voulez, Hitler a été élu en 1932, le parti nazi a eu la majorité des voix. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui,
Brecht, est-ce que ça veut dire que Brecht avait tort?
Voilà, nous allons dire que les intellectuels qui à l'époque s'opposaient donc à la décision de suffrage universel avaient tort. Vous voyez jusqu'où ça peut aller ce genre d'analyse? C'est complètement ahurissant.
Alors, quand vous entendez immigration choisie, par exemple,
oui,
est-ce que quota, quand vous entendez quota, immigration choisie, contrôle des flux migratoires, etc. Là, je reviens aux chercheurs, qu'est-ce que vous dites?
Là, je dis que, si vous voulez, en gros, la politique d'immigration, globalement, dans ses grandes lignes, dans ses grandes orientations, c'est ce qui a été montré aussi par beaucoup d'autres chercheurs de sciences politiques, elle s'est fixée en 1984. C'est-à-dire, en gros, fermeture des frontières, intégration de ceux qui sont là. Tout le reste, par la suite, si vous voulez, c'est des aménagements ponctuelle où vous avez donc une responsabilité des fonctionnaires, vous voyez, des pouvoirs publics, etc. Mais ça n'engage plus globalement le corps civique, ça nécessite plus de débat public. Or, on constate dans l'histoire de France, ce que je montre aussi dans mon livre, que le paradoxe, c'est que là où vraiment il y a eu des changements énormes dans les politiques d'immigration, c'est au moment où on n'en parlait pas. Vous savez que la plupart des dispositions concernant l'immigration entre la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 80 se sont faites à coups de circulaire. Hein? Toutes les grandes orientations se sont faites de cette manière-là. Et au moment où, donc, sur le plan politique, il n'y avait plus de changement majeur, c'est là que la question a été transférée dans l'espace public pour alimenter constamment le débat et donc entretenir une vision négative, puisque l'immigration est présentée toujours comme un problème.
Oui. Si on devait faire un bilan de l'immigration, ce qui serait absurde, parce que c'est un phénomène social, c'est un phénomène anthropologique, je ne sais pas, qui ne peut pas se juger. Mais si on essaye de résumer votre bouquin qui traite, encore une fois, je rappelle, 19e et 20e siècle, on peut dire que l'immigration a été largement positive à ce pays. C'est ça qui fonde ce pays, qui fonde son identité. C'était votre bouquin d'il y a 20 ans, le creuset français. Mais c'est aussi qui fonde sa richesse. Et pas seulement à travers ces artistes dont on est très fiers, les Picasso ou autres, très, très bien, parfait, mais c'est aussi à travers tous ces peuples, tous ces ouvriers, toutes ces petites gens qui sont venus, dont nos parents, enfin dans les miens en tout cas, je crois les vôtres aussi, et qui ont fait ce pays dans sa richesse. Enfin.
Oui, tout à fait. C'est, de toute façon, vous comprenez, l'immigration, c'est justement, j'ai repris l'histoire du terme immigration choisie, ça a été inventé pendant la guerre de 14, hein, c'est la politique d'immigration. C'est-à-dire, donc, on va recruter des gens qu'on choisit, hein, c'est-à-dire, à l'époque, il fallait être blanc et catholique, donc polonais ou italien, bon. Et on disait désirable à l'époque, hein, c'est l'opposition désirable-indésirable, bon, qui a été remise au goût du jour avec immigration choisie. Mais il est bien évident que l'immigration, le mot le dit, c'est toujours une politique au service de l'intérêt national. C'est pas les immigrés qui vont dicter leurs lois au pays d'accueil. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte d'hypocrisie flagrante qui est doublée par le fait que même l'immigration clandestine, vous savez très bien qu'elle alimente des marchés du travail secondaire, etc., qui ne pourraient pas vivre sans ça. Donc, il faut combattre. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais si vous voulez, faut bien voir que les principaux responsables de l'immigration dite clandestine, ce sont des entrepreneurs, ce sont des secteurs du marché du travail qui vivent avec ça, etc., etc. Donc sur le bilan, effectivement, si on voulait faire un bilan comptable, ce qui a un côté, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu absurde, mais ceux qui raisonnent comme ça, on peut aussi leur apporter des arguments. Effectivement, la France n'aurait jamais pu rester dans le peloton de tête des grands pays développés sans le recours à l'immigration. La France est le premier producteur mondial de minerais de fer en 1930. Eh bien, tous les mineurs de fonds sont étrangers ou issus de l'immigration. Tous. Vous trouvez les Français à partir des porions. Vous avez, dans le bâtiment, vous avez tous les corps de métier, tout le prolétariat, ce qu'on appelle le prolétariat en France a été constitué essentiellement par des immigrés. Et ça continue encore aujourd'hui et ça continuera encore demain. Parce que ceux qui croient que l'immigration va s'arrêter vivent dans un fantasme absolu. Je veux dire, c'est complètement faux du point de vue, et toutes les projections que nous avons de l'INED et autres montrent bien que ces mouvements, ces flux migratoires, peut-être faut aussi rappeler que la migration, le déplacement des personnes, ça fait partie de l'histoire de l'humanité depuis le début. C'est une des raisons fondamentales du développement des civilisations. Nous qui sommes au XXIe siècle, on voudrait figer et arrêter ces mouvements. Et aussi, le dernier argument qu'on peut apporter, c'est combien de Français, dans l'avenir, vont eux-mêmes devenir des immigrés en travaillant à l'étranger. On en a de plus en plus aussi. Il faut voir aussi les échanges internationaux dans les deux
frontaliers.
Sens. Frontaliers. Vous savez, aujourd'hui, moi, je viens de Lorraine, où les sidérurgistes de Longwy, etc.
Tous les jours, ils travaillent au Luxembourg.
Ils vont travailler au Luxembourg. Ils sont devenus eux-mêmes maintenant des émigrés dans l'autre sens, etc. Donc, je veux dire, tout ça, ça fait partie de la réalité de la vie. Il faut l'affronter de manière la plus ouverte possible, parce que c'est aussi notre intérêt.
Nous n'avons pas de politique d'immigration. Nous n'en débattons pas. Nous ne posons pas les questions. Je souhaite une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie. Et j'ai donc demandé deux choses. La première, c'est qu'il y ait un ministère chef de file pour décider d'une politique d'immigration. Aujourd'hui, il y a l'administration des affaires étrangères, de l'intérieur et des affaires sociales. Chacune fait très bien son travail, mais avec des logiques et des cohérences différentes.
Donc là aussi, vous voulez changer la logique complètement.
Oui, tout à fait.
Mais je suis dans la tradition française. C'est un autre système, là, encore.
Enfin, permettez-moi de vous dire que si la tradition française, pour vous, c'est d'avoir chaque année tellement de sans-papiers que tous les 10 ans, on doit régulariser en catastrophe, si ça c'est une tradition, enfin venons-en à la question des quotas. Mais il y a beaucoup de démocraties qui décident un certain nombre de quotas en fonction des besoins sur le marché du travail, ou même...
Un quota sur les nationalités, sur le nombre d'immigrés ?
On peut en débattre.
Est-ce que c'est le bon moment pour lancer tout ce débat sur des thèmes extrêmement sensibles ? Vous pensez que oui ?
Alors
qu'il y a une élection bientôt ?
Bien sûr, alors ça c'est jamais le moment. Alors si on écoute le petit milieu, c'est jamais le moment.
Alors, on va dire oui, mais bien sûr, voilà un historien, un journaliste qui, eux, ne craignent rien. Parce que moi, je crains rien. Personne va venir. Il n'y a pas un immigré ukrainien qui va venir me voler mon micro. Je crains rien. Vous non plus. Il y a des intellectuels, des historiens polonais. Mais enfin, vous risquez pas de perdre votre place ni votre prestige historien. Or, ce qu'on voit à travers votre bouquin, c'est qu'on a eu beaucoup de luttes à l'intérieur du monde ouvrier, entre ouvriers de souche, français de souche, avec des contrats longue durée, syndiqués, et ces immigrés qui viennent de leur propre poussés par des nécessités de survie ou d'amélioration de leur vie, ou bien attirés par des entrepreneurs. Je veux dire par là que évidemment que Nicolas Sarkozy, le candidat comme le président aujourd'hui, ont beau jeu de dire oui, mais nous voulons défendre les nationaux contre les immigrés. C'est-à-dire que je crois qu'au programme du Front Populaire, il y avait la préférence nationale. Donc, on va nous dire que c'est facile de parler comme nous le faisons en faisant l'éloge de l'immigration.
Oui, non, mais là, c'est facile, effectivement, dans la fonction publique, dans mon cas, parce que je suis fonctionnaire, je n'ai pas directement menacé par travailleurs immigrés, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait, je dirais là encore, sur le plan politique, j'entends sur le plan politique, des modalités de législatives ou de protection de l'intérêt national, comme on dit, ça c'est un élément qui est inhérent au fonctionnement de l'État-nation. La différence entre le citoyen et l'homme, c'est justement que les représentants d'État sont en charge d'une communauté nationale. Donc, moi, là encore, faut bien distinguer les choses. Je ne dis pas que si j'étais président de la République, j'ouvrirais les frontières et tout le monde... Enfin, je veux dire, c'est pas à ce niveau-là. Je veux dire, là, il y a un niveau proprement politique qui engage des hommes politiques avec des décisions de l'ordre politique. Moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas utiliser le discours sur l'immigration comme, je dirais, une sorte de panacée ou de transformer les étrangers en responsables de l'ensemble des problèmes qui s'abattent sur les gens. Parce que je dirais, la fermeture des frontières, ça fait 20 ans aujourd'hui. La fermeture des frontières, c'est le milieu des années 70. Que ce débat a été posé au milieu des années 70, ce débat a été posé, quand le Front National a dit qu'il fallait expulser les 3 millions d'immigrés, il y a eu toute une série d'études d'économistes, etc., qui ont montré que c'était complètement absurde. Aujourd'hui, c'est pas le problème qui est posé, c'est pas le problème du risque d'une invasion. Vous comprenez, c'est déjà tricher sur les chiffres, ça, il y a déjà le problème statistique. Aujourd'hui, les deux raisons pour lesquelles les étrangers peuvent arriver en France, hors communauté européenne, alors là, il faut voir si on implique le risque que représentent les Allemands, parce que là, pour le coup, un Allemand aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, peut occuper un emploi qui autrefois était réservé aux Français, à la société française. On a des remises en cause aussi du statut de la fonction publique qui se jouent à l'intérieur de l'Europe, qui sont détachées de la question de l'immigration, mais qui, au fond, posent aussi ce type de problème que vous évoquez, qui est très important, qui est le problème de la concurrence sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, je dirais que les flux migratoires se font par regroupement familial et par le droit d'asile qui est réduit à une portion vraiment congrue. Donc c'est pas tellement à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est par rapport aux années 30, là ce que vous disiez était très fort. Vous aviez des conflits dans les usines entre ouvriers immigrés, ouvriers français, dans le marché du travail. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans les quartiers plutôt. Il y a un déplacement de la question du travail au quartier. Et c'est ça l'une des grandes nouveautés la politisation de l'immigration à partir des années 80, ça a été l'importance accordée au lieu de vie, au quartier, beaucoup plus que à l'entreprise. Et l'école, parce que le problème, c'est la reproduction de la force de travail, comme on dit en langage marxiste, c'est-à-dire les parents sont angoissés pour leurs enfants. Donc ils veulent les mettre dans des écoles voyez, avec tout, il y aura, ils auront tous des 100% de réussite. Ou, bon, il y a aussi un fantasme autour de l'école. Et là, du coup, l'immigré va apparaître, vous voyez, comme une menace, comme une source de dégradation de l'école, avec la montée aussi des formes de difficultés dans l'école auxquelles les enseignants peuvent être confrontés, les violences scolaires qui existaient déjà avant, mais qui se sont ont changé de forme, etc. Donc là, voilà, la menace, elle va être ressentie plutôt, voyez, à ce niveau-là, que purement sur le marché du travail, parce qu'il reste une segmentation très forte, c'est-à-dire les emplois dans lesquels travaillent aujourd'hui les immigrés, c'est les saisonniers, par exemple, toujours une très forte composante de saisonniers dans l'agriculture, et puis des emplois dans le bâtiment, où vous savez, il y a parfois des pénuries, hein, encore aujourd'hui. Donc il y a une segmentation du marché du travail qui est beaucoup plus forte qu'avant, et une protection des emplois, j'allais dire, des gens enracinés, qui est plus grande parce qu'il y a le diplôme, l'importance du diplôme. Alors que dans les années 30, vous avez des manœuvres qui arrivaient, les gens arrivaient des campagnes, ils étaient manœuvres, et puis ils prenaient la place de Français qui étaient eux-mêmes manœuvres, ou pas loin, si vous voulez. Donc là, il y a un déplacement des choses, et dans le discours de protection nationale, il n'est plus tellement connecté directement au marché du travail, mais beaucoup plus à l'environnement, à l'espace de vie, aux cités, aux quartiers, aux banlieues, à la violence de la jeunesse. Ça, c'est tout à fait nouveau, par exemple. Ça n'existait pas, la deuxième génération, avant les années 70. Donc, ce qu'on appelle les problèmes des jeunes immigrés, c'est lié à deux phénomènes majeurs qui n'ont rien à voir avec l'immigration. C'est la société de consommation qui a créé une nouvelle classe sociale, les 15-25, et puis la prolongation de l'école. Parce qu'avant, les gens, à 14 ans, ils allaient travailler à l'usine, donc il n'y avait pas de problème. Ils passaient de l'enfance à l'âge adulte. Donc, aujourd'hui, on a cette classe d'âge sur laquelle se focalisent aussi les regards. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'immigration et qui charrie toute une série de représentations qui sont connectées. L'affaire du voile, ce sont des jeunes filles. Vous voyez, tous les problèmes de l'école qui sont posés, comme le problème de l'autorité, la critique de mai 68, etc. Tout ça est connecté à ce lieu central qui est devenu aujourd'hui l'école.
Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000 quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vrais stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver.
À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale tic à jurer à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque, au fond de la gorge. De sorte que la bague t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le cop, les tracts qui traînent. Manif contre le maire d'un malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau ropeux. À la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harache qui affole la signale et dit.
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Vous étudiez l'immigration sur le temps assez long quand même, même si l'essentiel de votre travail porte sur le 19e et le 20e siècle. Est-ce que vous voyez un progrès dans ce regard que nous avons sur l'immigration?
Il y a...
Quand je dis nous, c'est aussi bien l'immigré que le non-immigré.
Oui, moi je suis contre, je le dis souvent d'ailleurs aux associations, etc., contre la
tendance
qui consiste toujours à dramatiser les choses. je pense que ça peut être un ressort militant, en disant c'est encore pire que sous Vichy. Bon, mais ce n'est pas, à mon avis, de cette manière-là, en tout cas que moi je conçois mon travail, parce que je pense que pour agir efficacement, il faut connaître la réalité dans laquelle on vit, et ne pas vivre avec des fantômes.
Voilà, par exemple, quand on parle de rafles, aujourd'hui, oui. quand il s'agit de reconduite à la frontière, peut-être que la simple reconduite à la frontière est assez dramatique, sans qu'on n'ait pas besoin d'évoquer des rafles qui rappellent la Seconde Guerre mondiale et ces moments atroces. On n'est pas obligé de comparer, de rapprocher.
Moi, je suis contre l'usage de ces termes, parce que c'est faire justement comme la même chose que ceux qu'on critique, quoi, par le fait. Et je pense qu'à terme, c'est même du point de vue militant, c'est négatif, parce que après, ça suscite des critiques de l'autre côté, en disant mais vous êtes extrémiste, vous voulez toujours voir Vichy partout, etc. Vous voyez, il y a un nivellement des choses. Mais donc il y a effectivement dans le discours public, j'ai essayé de le montrer aussi dans le livre, il y a un certain nombre de termes qu'on ne peut plus employer, ne serait-ce parce qu'il y a des lois qui pénalisent aujourd'hui le racisme, etc. Mais ceci dit, il y a malgré tout des constantes importantes dans les constructions des stéréotypes, et notamment dans le langage sécuritaire. C'est frappant de voir que, si vous voulez, ce qu'on va dire aujourd'hui des immigrés dans les banlieues, eh bien, c'est à peu près la même chose qu'on le disait déjà dans la grande presse populaire avant la guerre de 14. Là, il y a une constante, et on a le sentiment que ça n'a pas beaucoup progressé. Ça a beaucoup plus progressé dans le domaine, je dirais, de la culture, dans le domaine des écrivains. Vous savez, dans les années 30, les écrivains français, il y en avait beaucoup. Regardez Céline, etc., enfin, qui alimentaient la xénophobie et l'antisémitisme. Aujourd'hui, dans les milieux artistiques, etc., on a quand même beaucoup progressé par rapport à la critique, la lutte contre les stéréotypes. Mais dans le milieu, je dirais, de l'information spectacle, c'est là que je pense qu'il faudrait, et je le dis dans mon livre, moi mon livre, je règle pas de compte, je ne juge pas, je dis mettons-nous autour d'une table, trouvons des lieux pour en discuter, parce qu'il y a des contraintes qui pèsent sur un certain nombre de gens, on le sait très bien, et parfois les gens n'ont pas conscience des effets de ce qu'ils font aussi, de ce qu'ils disent. Si vous vivez dans un milieu, comprenez, qui n'a jamais été confronté d'une manière ou d'une autre, ni à l'immigration, ni aux difficultés de vie dans les milieux populaires, vous savez pas ce que c'est qu'une cité, etc., vous pouvez en toute bonne foi véhiculer des stéréotypes, je dirais, sans en avoir conscience. Donc il faut rassembler aussi, il faut lier davantage les gens, de façon à éviter un certain nombre de choses. Et je pense que les associations de lutte contre le racisme devraient aussi se mobiliser sur ces questions de construction de stéréotypes.
Alors, on va finir, Gérard Noiriel, en vous demandant où vous en êtes aujourd'hui avec ce ministère et ce que vous espérez, ce que vous demandez précisément.
Eh bien, à partir de ce mouvement qui a été très réfléchi de notre part, comme on le disait tout à l'heure, mais qui nous a surpris, je dirais, au niveau des réactions. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on avait bien joué au niveau de la stratégie médiatique. Je dois dire que nous ne sommes pas des spécialistes, hein, mais que le fait même d'annoncer notre démission le jour de la constitution du ministère a eu un impact, parce que il n'y avait pas beaucoup de sons discordants, donc ça permettait peut-être de donner une voix un peu différente. Et aussi, il y a eu beaucoup d'impact dans notre propre milieu. On a eu énormément de messages de soutien, et donc on a décidé de prolonger, d'élargir l'action, en disant, lançant une pétition qui est en train d'être élaborée, même au niveau de son texte. Donc
elle ne circule pas encore. Vous êtes en train de l'élaborer,
et qui s'adressera bien sûr au-delà du monde universitaire, à tous les gens qui d'une manière ou d'une autre ont une responsabilité dans la construction des représentations publiques, et qui vise effectivement à obtenir la suppression de cet intitulé, de cette référence à l'identité nationale.
Merci à Gérard Noiriel. Je rappelle à nouveau le titre de son bouquin qui est sorti chez Fayard, Immigration, antisémitisme et racisme en France, 19e et 20e siècle, discours public et humiliation privée. Merci aussi à Patrick Veil, je rappelle un de ses ouvrages, La France et ses étrangers, aux éditions Gallimard, à consulter le site de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, CNHI, www.histoire-immigration.fr, et également le site du Comité de Vigilance des Usages Publics de l'Histoire. Comité de Vigilance des Usages Publics de l'Histoire, CVUH.
www.franceinter.free.fr. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également vous rendre sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et beaucoup d'autres numéros de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Aurélie Fortin, c'est Coy Nguyen et Raphaël Mouterne qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Et quant à Christophe Imbert, eh bien, il attend avec impatience vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il est 16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les informations avec Nicolas Perronnet. Salut.